Je crois que tout le monde est assis. Je donne donc la parole immédiatement à Perrine Simon-Nahum, qui est directrice de recherche au CNRS et qui va traiter ce sujet apparemment mystérieux ou énigmatique, quand le singe vient réclamer son crâne, héros ordinaire au miroir de la littérature. Perrine, à vous.
Merci, Madame la Présidente. Je commencerai tout de suite par lever l'énigme avec une petite lecture. Le temps n'est plus aux belles paroles ni aux invectives méprisantes. Tout cela est très joli et très juste, mais imaginez que la porte s'ouvre et que nous voyions entrer un pithécanthrope, tout ce qu'il y a d'ordinaire, et qu'il exige de vous son crâne que vous conservez justement dans votre coffre-fort. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Faut-il affronter le singe ? Faut-il affronter le singe ou lui abandonner non seulement son crâne, mais aussi le nôtre ? C'est sur fond de disputes scientifiques opposant la phrénologie nazie désireuse de réécrire la science pour apporter la preuve de la supériorité de la race aryenne, et l'anthropologie, qui situe l'ancêtre de l'homme quelque part du côté des races inférieures, que le dissident soviétique, Yuri Dombrovski, déroule pour nous depuis l'hôpital où il a passé 4 ans dans la Colima, où il déroule pour nous donc ce tableau d'une France occupée, où le professeur Meissonnier, qui dirige l'Institut des cultures primitives et de paléoanthropologie, et ses disciples doivent affronter la terreur nazie. Leurs réactions seront diverses. Le professeur, disciple de Sénèque, choisira de se suicider. Le numéro 2 de l'Institut, le professeur Lannay, signe, lui, une lettre dans laquelle il renie les découvertes de son maître, accréditant la thèse nazie. Quant à l'assistant Anka, il va devenir résistant, une sorte de héros malgré lui. La morale de l'histoire, il est hasardeux de définir les lois qui gouvernent le comportement humain. Et souvent, les singes sont-ils plus prévisibles que l'homme ? Nous pourrions en tirer ici une loi supplémentaire dans le cadre des réflexions que nous avons menées depuis 10 jours, à savoir que l'ordre légal et administratif ne règne sur nos vies qu'autant que nous acceptions de voir en lui un ordre naturel. Les romans qui traitent de ce qu'on a appelé depuis le début de l'après-midi donc la posture du cavalier seul n'appartiennent ni au genre épique, ni à la littérature d'édification, et encore moins au roman historique. Le ton singulier qui en émane en fait un genre à part, pourtant rarement repéré comme tel. Ce dont ils parlent, ils sont en effet les seuls à l'aborder. Car l'ambivalence qu'ils décrivent, l'évolution qu'ils révèlent, et que nous avons appelé ici « choix », n'apparaissent pas toujours, non seulement aux observateurs, mais à la conscience même de ceux qui les accomplissent. Le couple Hampel, décrit par Hans Falada dans son roman « Seul dans Berlin », sous le nom de Otto et Lise Kangel, ou les exilés roumains de Norman Manea, dans son roman paru en 2009, « La tanière ». Car il faut sans doute être romancier pour pénétrer l'intimité des individus. Décrire comment ce qu'on supporte la veille devient insupportable le lendemain, et ce, sans qu'un événement exceptionnel ne soit venu troubler le cours des choses. Il faut posséder cet art de saisir les nuances pour retranscrire, comme le fait Antonio Tabucchi dans Pereira Pretense, Ostiene Pereira, paru en italien en 1994, la manière dont s'introduit presque à son insu dans l'esprit d'un journaliste, collaborateur d'un journal salazariste, le léger écart qui le conduit, malgré sa prudence, à enfreindre la loi policière de l'État et à cacher un opposant au régime. Il faut parfois avoir été dissident soi-même, comme Yuri Dombrovski, né à Moscou en 1909, arrêté à 4 reprises par les autorités soviétiques, dont la dernière fois en 1949, et disparu en 1978, quelques semaines après avoir été battu à mort à la suite de la publication en français de son roman « La faculté de l'inutile », ou comme Norman Manea, écrivain roumain, né en 1936, déporté avec sa famille en 1941 dans un camp de Transnistrie, et contraint à l'exil en 1986 après la publication de « L'enveloppe noire ». Les trajets auxquels nous allons nous intéresser ici n'apparaissent en effet ni dans les journaux intimes de l'époque, dans la mesure où ils se révèlent après coup, ni dans les études historiques, car ils valent pour un seul individu. Ils sont laissés à la libre imagination du romancier, et pourtant font référence à une réalité qui a existé. C'est cet écart, ce pas de côté dont a parlé Marc-Olivier, qu'il convient d'explorer en montrant comment, en fait, la forme romanesque renvoie précisément à l'essence du sujet. Si le romancier se révèle aussi habile à dresser la posture du cavalier seul, c'est qu'il possède les instruments adéquats pour peindre le quotidien des émotions et des sentiments, qui installe progressivement les protagonistes dans une forme d'étrangeté par rapport au monde dans lequel ils évoluent. La rupture se fait ici implicite. Et s'ils sont peu nombreux dans notre galerie, les fonctionnaires y sont particulièrement éloquents, dans la mesure où l'ordre administratif participe en quelque sorte de ce dérèglement. Le général von Hammerstein, héros impavide de l'enquête de Ernst Magnus Enzersberger, Joseph Bridet, personnage central du piège d'Emmanuel Bove, sont à l'image de l'administration qui, dans le Berlin des années 30 ou à Vichy, peine à se décider pour l'avenir de l'histoire, flottant dans des habits trop grands pour elle, allant même quelquefois jusqu'à continuer d'admettre en son sein des opposants au nouvel ordre politique dès lors qu'ils n'ont pas pris la décision de démissionner. Les fonctionnaires, que les circonstances conduisent à endosser la posture du cavalier solitaire, le font parce que, d'une certaine manière, les insuffisances du système les y autorisent. Entre la politique et l'individuel, l'administration forme un ordre intermédiaire. Celui-ci, implacable et flou, deviendra implacable parce que flou, non sans avoir auparavant autorisé des ruses de l'histoire. Alors comment devient-on cavalier seul ? Il ne faut chercher aucune logique de ce choix, ou plutôt, si celle-ci existe, elle n'est pas d'ordre historique. Telle est la leçon, je crois, que nous donnent les romanciers. S'il existait une telle logique, elle devrait en effet englober l'ensemble des causes, des plus déterminantes aux plus anodines, à la manière, si vous voulez, d'un tableau dont on n'arriverait pas, en fait, à isoler un plan. Dans cet exercice d'herméneutique auquel nous introduit donc le roman du cavalier seul, la première leçon que reçoit le lecteur est celle de la non-compréhension. Pour cela, le roman opère en fait un premier déplacement apparemment anodin parce qu'il s'effectue au moyen des instruments de la fiction. Il s'agit du dialogue avec les morts, qui est, de façon assez curieuse, me suis-je rendu compte, commun à l'ensemble des romans dont il sera question ici. Juste une petite citation de l'enquête sur Hammerstein. « Ce livre n'est pas un roman. Ce que j'ai pu établir, grâce à des sources écrites ou orales, j'ai voulu le distinguer de mes jugements subjectifs qui apparaissent ici sous forme de glose. Pour compléter, je me suis servi de la vénérable forme littéraire qu'est le dialogue avec les morts. De telles conversations posthumes permettent de faire s'entretenir des gens d'aujourd'hui avec ceux qui les ont précédés. Cette confrontation s'expose notoirement à bien des difficultés de compréhension, car les rescapés croient souvent en savoir plus long que ceux qui vivaient dans l'urgence permanente et y risquaient leur vie. Les nécrologies composées par le signor Pereira ont pour fonction, je crois, de la même façon de nous initier au mystère de l'existence humaine, en nous montrant en fait l'impossibilité de réduire à une simple relation de causalité les événements d'une vie humaine. De la même façon, l'extrait du journal qui ouvre le troisième interrogatoire de Roubatchev, héros déchu de la Révolution de 1917 dans « Le zéro et l'infini » de Koestler, et dans lequel donc Roubatchev décrit la Révolution comme une gigantesque balançoire européenne, passant à grande vitesse de l'absolutisme à la démocratie et de la démocratie à l'absolutisme, en éjectant au passage ceux que son mouvement laisse indifférent, voire critique, est un résumé, je crois, de sa propre nécrologie à l'usage de ceux qui viendront après, dans une Russie délivrée des erreurs du communisme. S'il est impossible de porter un jugement sur une époque que nous n'avons pas vécue, c'est non seulement en raison de la distance historique, mais également parce que ces effets se font encore sentir aujourd'hui, par-delà les années ou par-delà les frontières. Tel est l'argument du roman de Norman Manea. Le professeur Augustin Gora, émigré de Roumanie aux États-Unis, où il enseigne à l'université, y tient lui aussi une rubrique nécrologique dans un journal d'exil, où il ne traite d'ailleurs pas seulement des personnages, des figures disparues, mais aussi des idées, des livres, des mouvements idéologiques et religieux défunts. Et l'une des clés du roman tient en fait dans la nécrologie qu'il va consacrer à son maître, le professeur Dima, dont il découvre en lisant le journal secret qu'en fait celui-ci, qui a été un des ardents partisans du régime communiste à ses débuts en Roumanie, a également en quelque sorte collaboré à l'extermination des Juifs, puisque ayant dans ses jeunes années une maîtresse juive, il a laissé celle-ci être déportée et se suicider à son retour de déportation. Pourtant, le compte-rendu que le professeur Gora consacre donc au dernier livre de son maître et qui est l'objet de cette nécrologie est moins destiné à combattre les erreurs politiques de celui-ci qu'à mettre en lumière l'ambiguïté des populations qui ont vécu au contact des pouvoirs des anciennes démocraties populaires. L'une des questions que pose Manea, c'est effectivement de savoir si l'exil, à ce moment-là, vaut repentir. Ce que dénonce ici Manea, tout comme Czesław Miłosz avant lui, c'est donc non seulement la duplicité des démocraties qui ont utilisé à leur fin d'ex-communistes, mais également, et plus encore, je dirais, leur incapacité à comprendre ce qui s'est passé, à comprendre l'attitude des populations dans ces démocraties populaires. À ce titre, c'est l'histoire elle-même, en fait, que Manea décrit comme une vaste nécrologie, je reprends ici son nom, son terme, dont il nous faut tirer des leçons, non pas, dit-il, simple note d'adieu, mais un mémoire destiné à la postérité. L'histoire d'une vie, avec tout ce qu'elle a contenu ou n'est pas parvenue de contenir. On ne peut omettre ce qui n'a pas été réalisé, ce qu'on aurait voulu être ou faire, sans en trouver le moyen, les ratages sans seconde chance. C'est autre chose, dit-il, que de récapituler un calendrier, autre chose que le chaos quotidien. L'effet palimpseste est plus appuyé encore dans le prologue du roman de Dombrowski dont je parlais. Ce prologue raconte en effet comment un journaliste, Hans Meissonier, donc le fils de ce professeur Meissonier sur lequel j'ai introduit mon propos, croise, 15 ans après la guerre, le meurtrier de son père, l'officier nazi, qui a été réhabilité et rendu à la vie civile. Et ce déni de la mémoire qu'il va tenter de dénoncer en tant que journaliste dans un article qui lui vaudra ensuite une inculpation pour incitation au meurtre, puisque l'officier nazi est assassiné 3 jours après la parution de l'article, témoigne à son tour de la fragilité de la frontière existant entre l'ordre totalitaire et celui des démocraties. La construction des romans du Cavalier seul nous met donc sur la voie. Le genre est là pour souligner quelque chose, je l'ai dit, que ni l'historiographie ni le journal intime ne sont à même de rendre, à savoir l'ambiguïté, l'hésitation, le moment du basculement, celui où, finalement, deux collaborateurs du régime ou de celui qui s'en fait le complice implicite, le personnage prend tout à coup une épaisseur, conquiert sa singularité, agit, se transforme en opposant. On ne saurait dire en héros, puisqu'il est rare, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le romancier lui en accorde l'étoffe, ni même en résistant, car les choses ne sont jamais dans ses romans formulées en ces termes. Là où l'histoire décrit une résistance collective, là où le journal intime formule une adhésion explicite à des principes philosophiques ou politiques, le roman ne dit rien de tel. Et il demeure, en cela, dans une sorte de zone grise, dont les contours sont tracés par les hésitations du personnage principal et son parcours quotidien. Souvent, effectivement, rien ne change, ou à peine. Et je dirais qu'on retrouve là la remarque d'Anna Arendt à la fin du Eichmann à Jérusalem, selon laquelle, vous savez, à la banalité du mal répondrait en fait la trivialité du bien. Comment est-ce que le romancier montre que rien ne change ou si peu ? D'abord en forçant le trait dans l'opposition, le contraste entre ce cavalier seul et son entourage. C'est particulièrement frappant, me semble-t-il, dans l'enquête sur Hammerstein, puisque vous savez que l'opposition apparaît entre le général von Hammerstein, qui rentre très tôt dans une opposition à Hitler, alors qu'il est chef à la tête de la direction des armées, mais finalement que, en quelque sorte, son opposition échoue à travers l'échec des attentats qui auraient pu se produire ou qui, s'étant produits, n'ont pas atteint leur cible, là où la plupart de ses enfants, deux de ses filles et l'un de ses fils, vont entrer dans une résistance active, soit dans les rangs du KPD. L'une de ses filles, d'ailleurs, vivra jusqu'à sa disparition en RDA, soit, comme l'un de ses fils, Kunrat, participer de façon un peu lointaine, mais participer néanmoins à l'attentat manqué du 20 juillet. Alors comment est-ce que le cavalier seul en vient finalement à briser la chaîne qui le rend solidaire de ceux qui vivent autour de lui, dans le sentiment d'une peur partagée, mais également dans une communauté qui, comme le montre très bien Miloš dans son ouvrage sur la pensée captive, est également une communauté du jeu et d'une contrefaçon face à l'ennemi. Finalement, qu'est-ce qui provoque son basculement dans l'autre camp ? Je crois que pour le comprendre, il faut vraiment prendre conscience de la singularité de cette posture, donc qui s'identifie encore une fois ni à une résistance active, ni même à ce qu'on a appelé « résistance » en parlant de l'Allemagne. Très vite, et pour le dire en quelques mots, les héros de ces romans ont un parcours similaire. D'abord, ils se sont rendus à l'ennemi ou ont appartenu à son camp. Ça a été le cas de Miloš, vous savez, qui a été membre des services diplomatiques de la République de Pologne avant de demander l'asile politique à la France en 1951. Adhérer ne veut pas dire nécessairement d'ailleurs être croyant, mais seulement accepter les formes, y compris les plus brutales, ce que Miloš, là encore, appelle les nouvelles habitudes. L'idée, par exemple, qu'on désigne à des habitants d'une ville un quartier où ils doivent résider en raison de leur appartenance nationale, confessionnelle ou de leur langue. Nouvelles habitudes aussi qui font qu'enjambant un cadavre, finalement, on omet de s'arrêter. Adhérer signifie pratiquer ce qu'il appelle le « ketman », cette réserve mentale, vous savez, qui permet de faire semblant de s'inscrire dans la communauté des vainqueurs en masquant ses convictions propres. Ceci explique d'ailleurs que les personnages centraux de ces romans ne se distinguent jamais par des actes héroïques de résistance, mais plutôt par la place que conquièrent progressivement dans leur quotidien cette espèce de réserve mentale. Et ce qui est très intéressant, c'est que je trouve qu'on a là, j'ai pas le temps de m'y arrêter, mais on a là une sorte de définition en miroir des petites sociétés qui se forment, hein, et à cette petite société d'opposants, donc qui se distingue soit à certains types de vocabulaire, soit même à des gestes, répond en quelque sorte, si vous voulez, en négatif à la société allemande que décrivaient les petits cercles de société allemande que décrivait Nikolaus Sombart comme exaltant les mâles vertus du peuple allemand et dans lesquels il voit la matrice de la montée de l'hitlérisme. Ainsi, les protagonistes de ces romans ne sont-ils jamais mis en scène ni jugés de la même manière que les autres héros de la résistance ? L'action n'est pas leur domaine. Et pour reprendre les exemples choisis, il est frappant de voir, par exemple, que la résistance de Pereira, de Tabouki se résume finalement à la publication dans le journal de Lisbonne où il travaille de la traduction de cette nouvelle de Daudet écrite en 1870, La dernière classe. Et que la cachette qu'il va procurer à l'opposant, Monteiro Rossi, n'empêche pas celui-ci d'être exécuté par la police dans l'appartement même de Pereira. De la même façon, je vous ai dit, la résistance de Hammerstein, qui est également très présente, ne s'est jamais réellement manifestée en tant que telle. Dernier point, là aussi, on l'a dit, les cartes postales qui étaient distribuées par le couple Hempel dans Berlin pour éveiller le sens critique des Allemands. Ces cartes postales, on sait, n'ont jamais fait bouger la population. Alors c'est ici que, et ce sera mon dernier point, la métaphore du singe qui vient réclamer son crâne prend tout son sens. Dombrowski est en effet, à mon sens, celui qui nous renseigne le mieux sur les aspirations qui peuvent conduire un être à changer dans son fort intérieur. Brisant avec l'ordre naturel, il se place en marge, comme on l'a dit, ouvrant à une dimension de l'existence qui se sépare de l'histoire pour faire signe vers le sens. Le crâne dont il est question, donc celui du pithécanthrope, découvert par le professeur Meissonier, et celui donc que vient réclamer ce singe, métaphore de la brutalité nazie, qui, en reprenant possession de son crâne, est à la fois celui qui va interrompre la marche de l'histoire et le développement des espèces vers ce qu'on pourrait appeler un progrès naturel, mais également, évidemment, anéantit les aspirations de la culture et de la civilisation, éteignant la flamme de la pensée. Ce que nous raconte ici Dombrowski, c'est la manière dont, durant 5 ans et plus, puisque en 1949, il sera encore interné au goulag, la force brute l'a emporté sur la culture et la manière dont l'oubli s'est emparé de nos consciences, ce qui pourrait bien signifier la victoire définitive du singe. Il nous rappelle, de la même façon que l'idée de la domination d'une race sur les autres n'est pas née sur les champs de bataille, mais bien dans le silence des laboratoires scientifiques, et que la science peut se révéler tout aussi meurtrière que les armes. Il y a donc, si vous voulez, c'est là où je crois que réside la difficulté de ces romans qui ne débouchent jamais, en fait, sur une leçon ni sur une véritable conclusion. Il y a comme une obligation, un impératif catégorique, donc à refuser la violence, car accepter la violence serait bannir la civilisation. À partir du moment où vous refusez la violence, et il y a là-dessus un très intéressant article de Paul Ricoeur qui date du début des années 50, la question se pose de savoir à quoi vous pouvez vous raccrocher. Comment est-ce que vous pouvez prétendre lutter contre ceux qui, au contraire, agissent avec la violence ? Dès lors, et là aussi, je crois que c'est une leçon du livre de Dombrowski, la question devient une question préjudicielle. Celle que va poser le narrateur au procureur du roi venu l'inculper, donc d'incitation au meurtre. Qu'est-ce que la lâcheté du point de vue du droit ? L'importance des nécrologies sur lesquelles j'avais ouvert cet exposé, donc c'est clair. Ce qui conduit les personnages du roman, des romans, à adopter la posture du cavalier seul, en fait, ce n'est pas l'idée du kléos antique qui serait une gloire assurée au bout d'une existence courte. Ce n'est pas non plus, et c'est extrêmement intéressant, la possibilité d'infléchir l'histoire, mais c'est vraiment l'idée d'aller contre l'histoire. D'aller contre l'histoire, et comme le disait Marc-Olivier tout à l'heure, de donner l'alerte, finalement de fonctionner comme un donneur, un lanceur d'alerte. Manéa écrivait « Les anges n'écrivent pas de livres ». Et il faut croire que, d'une certaine façon, ils ne font pas non plus l'histoire. S'ils cultivent le mystère donc, qui entoure le cavalier seul, les romans qui les mettent en scène nous disent au contraire beaucoup, me semble-t-il, des sociétés qui les entourent. Et c'est là, sans doute, qu'on peut réintroduire le regard de l'historien. Ce que les romans cherchent à éprouver, c'est le sens que nous donnons à ce que Mireille Delmas-Marty appelait au début de ce colloque la notion juridique d'indérogeable, la vulnérabilité, qui peut aussi bien être préservée ou menacée par la politique, la loi, le droit, mais qui, en tout état de cause, je crois, les dépasse. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Perrine. Pour laisser du temps à la discussion, je me garde de tout commentaire. Je poserai simplement la question donc à notre grand témoin de cet après-midi, Jacques Vistel, conseiller d'État honoraire, président de la Fondation de la mémoire de la Résistance, de savoir s'il a percé, lui, les mystères et s'il croit que les anges écrivent.
Oh, mon Dieu. Je voudrais, en quelques mots... En m'excusant auprès de vous, parce qu'au fond, j'arrive le dernier, et par conséquent, je cours un risque, c'est de dire de temps en temps des choses qui ont été dites et redites. Je prends ce risque. Je voudrais d'abord souligner, et je pense surtout à nos amis qui sont nés dans les années 80-90, et qui ont donc un recul considérable, et qui le savent, nous ne sommes pas en droit de juger les comportements de ceux qui ont agi entre 40. Martine Daubadeffre le disait tout à l'heure, aucun de nous ne sait ce qu'il aurait fait. Par conséquent, soyons extrêmement prudents, essayons-nous de tenter d'écrire une vérité de l'histoire. C'est l'historiographie, et sur laquelle naturellement se penche beaucoup la Fondation de la Résistance, a eu beaucoup de périodes. Et dans une première période, au fond, elle a joué le jeu entre les Français, tous collabos, tous résistants, plutôt le contraire. Tous résistants, c'était un peu la doxa communiste et gaulliste. Tous collabos, ça a été le grand mouvement après le film comme Le Chagrin et la Pitié, qui a beaucoup, et qui imprègne encore, d'ailleurs, je crois, beaucoup les médias. Et au fond, la recherche historique d'aujourd'hui s'attache beaucoup plus, enfin s'attache à cerner ce qu'on appelait les zones grises. Quelqu'un disait même l'autre jour toutes les nuances du gris. Et avec une difficulté majeure pour l'historien, c'est qu'autant il existe des archives assez solides sur les résistants, des archives également solides sur les collaborateurs, la zone grise, elle est beaucoup plus difficile à définir. Vous disiez ce matin, je crois, ou tout à l'heure, comment définir le mot résistance ? Je voudrais aussi vous dire qu'il faut ne jamais oublier les circonstances personnelles. Il est plus facile d'entrer en résistance, en rébellion, d'être cavalier seul quand on est jeune et célibataire que quand on est installé dans une carrière avec femme et enfant. Ne jamais oublier également les circonstances d'espace, les différentes zones d'occupation issues de l'armistice. La zone annexée, purement et simplement par le Reich. La zone Nord-Pas-de-Calais, rattachée au gouvernement de Belgique. La zone occupée, la zone non occupée, parce que je n'ose pas dire la zone libre. Et puis, en plus, d'ailleurs, toutes les zones du littoral, n'est-ce pas, qui étaient sous un contrôle allemand extrêmement strict. Et donc, les conditions de la résistance y étaient naturellement fort différentes. Ne pas oublier non plus les circonstances de temps, les phases successives. Il y eut d'abord, on le sait, l'effondrement militaire et politique et l'appel aux vainqueurs de Verdun. « Êtes-vous plus français que lui ?» disaient les affiches montrant le maréchal. Et d'autre part, en juin, en septembre 40, au fond, seul De Gaulle, dont Marc-Olivier Baruch, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il était un fou, mais qui était aussi un visionnaire, seul, il était un des rares à avoir vu ce qui allait se passer pendant toute la guerre mondiale. L'opinion et les élites croyaient à la victoire de l'Allemagne avant que l'Angleterre résiste dans sa bataille. Après tout, l'armée française, qu'on considérait comme la première armée du monde, qui avait vaincu dans la Première Guerre mondiale, avait été vaincue. Comment les Anglais allaient résister ? Les phases se succèdent, renvoient, retour de Laval, en avril 42, un homme comme Dumoulin de Labartète, par exemple, qui était le bras droit de Pétain, on l'a dit, c'est à ce moment-là qu'il décide de partir. Il s'en va. Il est d'abord attaché financier à Berne, ce qui est un bon point de chute. Mais il rompt avec Vichy en novembre 43. Et il le dit dans ses mémoires. Novembre 43, dit-il, à l'heure de la milice, à l'heure de Déa. Il y a eu aussi en novembre 42, on le sait, l'invasion de la zone sud. Les fonctionnaires, donc, comme l'ensemble de l'opinion publique, ont évolué. Mais même ceux de 44 ne les méprisons pas. N'oublions pas que les premiers mois de 44 sont ceux d'une répression féroce, avec la Gestapo et la milice, songez aux Glières. Il y a eu aussi des trains de déportés à sauver avant les derniers convois d'août 44. C'est pourquoi, par exemple, sur le plan du droit, le statut des combattants volontaires de la Résistance précise sont CVR, ceux qui ont accompli des actes de résistance au moins 3 mois avant le 6 juin 44. Donc il y a eu évidemment en janvier-février 44 des retournements de veste, mais il y a eu aussi des gens qui ont vraiment pris des risques authentiques. Je voudrais évoquer quelques itinéraires, on en a déjà évoqué un certain nombre au cours de cette période, ceux de deux collabos et ceux d'un résistant. Excusez-moi pour collabos, je devrais dire, disons, nous ne sommes plus en 44. Prenons l'itinéraire d'un homme comme René Bousquet. Il est radical socialiste, il doit sa carrière au frère Sarraut. D'ailleurs, après la guerre, il retournera à la Dépêche du Midi, dont il sera membre du conseil d'administration. Boutillier est inspecteur des finances. Il est secrétaire général du ministère des Finances, sous Paul Reynaud. Et quand il sera à son tour ministre des Finances, il aura à son cabinet Alfred Sauvy, que nous avons tous connu à l'ENA, naturellement, et qui était déjà, comme on l'était beaucoup à cette époque, d'ailleurs, pour le meilleur et pour le pire, enfin pour le meilleur, très obsédé par les problèmes de l'inquiétude de la démographie française. Au Conseil d'État, il y a eu aussi, il y avait alors l'alibi des fonctions à exercer auprès des ministres. Il faut de tradition un membre du Conseil d'État au cabinet du garde des Sceaux. Et c'est ainsi que jusqu'au bout, auprès de Gabold, par exemple, il y eut au printemps 44 Chavanon, puis le président Nicolaï, en service plus ou moins commandé, parce que l'institution, la tradition, voulait qu'il y eût un membre du Conseil d'État auprès du garde des Sceaux. Et ça a été rappelé tout à l'heure, le vice-président Porcher accepta d'affecter un membre du Conseil auprès de Darquier de Pellepoix, commissaire aux questions juives. Je l'ai piqué ce renseignement dans un ouvrage de Marc-Olivier Baruch, qui précise d'ailleurs que l'intéressé est très vite parti du cercle de quartier de Pellepoix. Je voudrais évoquer un résistant littéraire de Pierre Larocque en m'inspirant de ce que Jean-Pierre Azéma a écrit dans le chapitre consacré à cette période dans le livre d'hommage que le Conseil d'État a fait à Pierre Larocque. Pierre Larocque est déjà un membre éminent du Conseil d'État. Lorsque le statut des Juifs paraît, il dit « J'eus le sentiment de voir la terre se dérober sous mes pieds ». Le 3 octobre 40, il est donc révoqué, mais il accepte d'être un membre officieux du cabinet de René Belin de juillet à décembre 1940, car le gouvernement de Vichy ne lui paraît pas manifestement illégal et il croit sous certaines formes à la rénovation, il ne dit pas révolution nationale, à la rénovation nationale, c'est ce qu'on a déjà dit sur l'état d'esprit des gens des années 30 qui souhaitaient des réformes importantes. Donc Pierre Larocque travaille sur la loi du 16 août 40, sur les comités d'organisation. Il rédige un projet qui prépare la charte du travail qui sera prise en octobre 41. Mais très vite, il prend du champ, il s'installe à Lyon en décembre. Il participe à des groupes de travail créés avec André Philippe, François de Menton, Alexandre Parodi. Ce dernier le recommande à Jean Moulin, qu'il envoie à Londres en 1943. Et Pierre Larocque travaillera notamment à la préparation de l'administration qui se substituera à celle du Vichy à mesure que le débarquement aura lieu et qui évitera l'installation de la MGOT dont il a été déjà question. Et Pierre Larocque revient en France le 14 juin 1944, à bord de la frégate La Combattante, qui amène le général de Gaulle à Bayeux. Pour beaucoup de hauts fonctionnaires, le général de Gaulle intrigue. Et après l'invasion de la zone sud, l'éloignement de Pétain-Jouan, c'est souvent le général Giraud qui sera le sas, au fond, entre Pétain et de Gaulle. avec l'appui, on le sait, des Américains. Un homme comme René Meyer, par exemple, lui aussi membre du Conseil d'État, lui aussi révoqué, en raison de son appartenance, du fait qu'il est juif, il arrive à rejoindre Alger à ce moment-là, via l'Espagne, avec le soutien d'un de ses amis, Jean Jardin, et il viendra travailler à Alger avec le général de Gaulle. Autre exemple aussi de hauts fonctionnaires passés par le girondisme, Maurice Couve de Murville. Alors, quand on voit les fonctionnaires qui ont servi avec plus ou moins de zèle Vichy, examinons au fond leur motivation, ou plutôt leurs alibis. Le premier alibi, c'est l'idée Pétain-Bouclier. Alors, cet alibi a été bien étudié et bien démoli, depuis, notamment par Robert Paxton, qui a clairement démontré combien Pétain n'avait pas servi de bouclier contre les exigences allemandes, mais était allé souvent, notamment par le statut des Juifs, au-devant des souhaits de l'Allemagne. Deuxième alibi, l'illusion d'administrer au mieux des intérêts du pays. Déjà en 1851, un conseiller d'État justifie son service après le coup d'État de Napoléon III. Je le cite, « maintenir les conditions pratiques du gouvernement ». Ce « pratique » est magnifique. Troisième alibi, la discipline. C'est la tradition de la fonction publique. C'est encore plus la tradition de l'armée, la discipline faisant la force principale des armées, etc. Michel Debré la condamne. Dès 1942, lorsqu'il apprend qu'après les débarquements, que les dépôts d'armes qui ont été constitués après l'armistice sont livrés aux Allemands, il écrit « Quel échec pour l'esprit patriotique! Où la discipline va-t-elle se nicher quand l'existence de la France est en cause ?» Autre alibi aussi, c'est le problème déjà évoqué du serment à la personne du maréchal. Alors, on peut le voir de différentes manières, ce serment. Parfois, certains l'estiment sans portée, prêté avec cynisme ou dérision. À Bernard Chenault, qui, comme tous les autres membres du Conseil d'État, doit prêter serment, à son retour en août 1942, il le fait d'ailleurs par écrit, Porcher lui dit « Vous en prêterez bien d'autres ». Mais pour d'autres fonctionnaires, c'est une affaire sérieuse que le serment. Je me souviens d'un colloque consacré à l'armée d'armistice et à la résistance armée, où il nous fut indiqué, par exemple, que avant de rallier la résistance, un officier qui avait prêté serment ira consulter son confesseur. Est-ce que j'ai le droit de violer mon serment ? Au total, le comportement des fonctionnaires fut, nous l'avons vu, globalement le reflet de celui de la masse des Français. Peu de collaborateurs partisans de l'Allemagne, pas beaucoup de résistants et toute une gradation de comportement de l'attentisme au consentement. Quelles leçons peut-on en tirer ? D'abord, il y a la punition, après à la libération, les sanctions, l'épuration. À la radio de Londres, Pierre Larocque avait adopté une position assez dure. Il avait proclamé « Quiconque a participé de manière effective et sans subir la contrainte matérielle à une action contraire à l'intérêt de la nation et de la République doit être impitoyablement exclu de l'administration. La France de demain doit pouvoir compter sur la loyauté absolue de ses serviteurs. » Mais en France, il y eut une épuration importante dans les premières semaines suivant la libération, avec d'incontestables bavures. Mais assez vite, au fond, les lois d'amnistie, les annulations contentieuses de décisions visant des fonctionnaires intervinrent. Ailleurs, beaucoup de pays n'ont pas connu du tout. Au fond, l'Espagne post-franquiste n'a pas connu de grands procès, n'a pas connu d'épuration. Quant aux anciens communistes non plus, pas de procès, pas d'épuration. Les dirigeants d'aujourd'hui sont pour beaucoup des anciens du KGB. Au Japon, certains premiers ministres, on verra celui qui vient d'entrer en fonction, allaient chaque année au mémorial où reposent les criminels de guerre japonais. Les leçons de fond ont-elles donc été tirées ? Bien sûr, la France n'a pas connu de tragédie telle que 1940 et n'a pas à affronter aujourd'hui, et j'espère pour longtemps, un ennemi tel que le nazisme. Nous ne sommes plus dans une situation où, croyant désobéir, nous risquerions notre vie. Mais il y a eu, Jean-Pierre Duport l'a rappelé, l'Algérie, la torture. Ce fut aussi le cavalier seul dans l'armée, Paris de la Bollardière, au Conseil d'État, Paul Telgène. Et je voudrais également évoquer Roland Maspétiol, qui fut l'auteur d'un rapport qui fit date. Mais à l'époque, dans cette tragédie algérienne et militaire et le risque de la torture, des résistants incontestables ont accepté l'inacceptable. Je pense à Robert Lacoste ou à Maurice Bourgès-Monnoury pour défendre l'Algérie française. Si l'on quitte les individus pour évoquer les institutions et le droit, je n'insisterai pas sur les progrès du droit. Madame Delmas-Martin nous les a rappelés très clairement l'autre jour. Également le statut de la fonction publique de 83 qui rend législative la jurisprudence relative au refus d'obéir à un ordre illégal. La question se pose de savoir, est-il appliqué l'article du code pénal qui demande aux fonctionnaires, n'est-ce pas, de prévenir le procureur des choses pas très bien dont ils ont connaissance, comme par exemple les marchés publics, les permis de construire, ou de dénoncer un fait de corruption. Combien d'applications reçoivent ces articles aujourd'hui? Mais il y a tout de même un progrès du droit. Elle est terrible, Madame de Boisdeffre. 3 minutes. Comme le rappelait Madame Delmas-Marty, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration européenne. Je voudrais également évoquer les principes du programme du Conseil national de la Résistance, qui ont largement inspiré le préambule de la Constitution de 1946, qui fait désormais partie du bloc de constitutionnalité auquel se réfère le Conseil constitutionnel. Le droit fait aussi progresser les institutions. Mais nous l'avons bien vu au cours de ces journées. Le danger, c'est que les institutions ont vocation à être pérennes. Heureusement, c'est leur raison d'être. Mais c'est aussi un risque lorsque leurs membres veulent à tout prix les sauvegarder au prix d'accommodements qui finalement les perdent. Confère ce qui nous a été dit tout à l'heure. Le Conseil d'État sous Vichy, concluait Jean Massot, s'est sali les mains. Mais je voudrais dire aussi, mais je l'ai dit avant même l'intervention de ce matin du vice-président, en 62, en prenant l'arrêt Canal, il a fait prévaloir les principes généraux du droit pénal. Le gouvernement et le général de Gaulle l'ont, c'est le moins qu'on puisse dire, fort mal accepté. L'institution elle-même parut un moment menacée, mais elle avait fait ce qu'elle estimait être son devoir. Pour les institutions, je crois qu'il faut également distinguer celles qui sont dotées de cohésion interne plus ou moins forte. Dans certaines institutions, les individus agissent de manière très autonome. C'est le cas de l'université. C'est aussi, je crois, le cas des préfets. Corps extrêmement exposé dans des périodes comme celle de Vichy, mais où des comportements individuels peuvent se manifester. Beaucoup furent déportés, je crois, 45. Jean Moulin fut révoqué dès le 2 novembre 1940. Et ce corps s'est tout de même suffisamment bien comporté pour que lorsque, en octobre 1943, Michel Debré dresse la première liste des préfets possibles dans la France libérée, il sélectionne 18 anciens préfets et 21 sous-préfets et secrétaires généraux. D'autres institutions sont collégiales et possèdent une structure interne plus forte. La magistrature, le Conseil d'État, l'armée, la police, je cite l'Église, mais bien qu'elle ne soit pas, sauf en Alsace-Moselle, un corps de fonctionnaires. Le cavalier seul, je crois, y est plus difficile, car il y a une sorte de cohésion du corps qui peut conduire parfois à des complicités. Et il est sûr que le comportement de quelques héros n'exonère pas l'institution, Jean Massot le rappelait dans son texte. Alexandre Parodi et Michel Debré ne doivent pas faire oublier la main prêtée à des textes inadmissibles ou à des décisions contentieuses plus que complaisantes. Quelle éthique, quelle leçon d'hier pour aujourd'hui? Selon Marc-Olivier Baruch, il y a lieu d'en tirer aucune. Mais je crois que tout de même que la présence l'autre jour du président de la République et les paroles qu'il a prononcées montrent que, pour lui, hier peut éclairer aujourd'hui. Nous ne connaissons plus directement le péril de la nation ou de la République. Mais parfois, nous assistons à un affaiblissement de l'éthique, à une perte de repères dans certaines professions, la banque, dans des structures politiques nationales ou locales. Également des poussées de xénophobie, l'épisode des expulsions brutales des Roms. La dérive du droit pénal, Madame Delmas-Marty rappelait ce texte sur les mesures de sûreté à l'égard des condamnés ayant purgé leur peine. Je crois aussi que nous avons un vrai problème en acceptant dans l'Union européenne que nous construisons des comportements racistes dans certains pays, la Hongrie, la Roumanie, ou des dérives de pays qui acceptent, par exemple, que la CIA pratique sur son sol la torture. La Fondation de la Résistance avait fait un colloque récemment, il y a 2 ans, avec le CEVIPOF de Sciences Po, sur le thème « Les extrêmes droites en Europe, 2 points, le retour, point d'interrogation », en essayant de faire un panorama de tout cela. Pour conclure, je dirais que les progrès du droit, rassurez-vous, Madame la Présidente, les progrès du droit, le perfectionnement des institutions sont des phénomènes qu'il faut saluer et qui sans doute nous éloignent des années noires. Mais saluons tout de même le cavalier seul et sachons que la morale personnelle, le respect des valeurs par chacun demeurera essentiel par-delà les textes et les institutions. Si vous me le permettez, me viennent à l'esprit ces mots qu'écrivit mon père. L'engagement dans la résistance ne cessa jamais d'être une affaire personnelle. Qu'on fût syndicaliste, homme de parti ou sans lien, cet engagement répondait à un appel venu du plus profond de la libre conscience. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour ce témoignage et cette mise en perspective, cette ouverture sur le présent et l'avenir. Et j'ouvre tout de suite, comme promis, la discussion. Monsieur Crémieux-Briac, dont je salue la présence.
Donc je vous prie de m'excuser si je répète des choses qui ont été dites précédemment, je n'étais pas là hier. Le premier point que je voudrais évoquer est le fait de la conscience individuelle dont vient de parler Jacques Vistel et d'autre part, en liaison avec ça, de l'escroquerie pétainiste. Conscience individuelle, je suis prisonnier en Allemagne le 20, j'arrive dans un camp de prisonniers en Poméranie le 20 juin 1940 et l'enregistrement est fait par un Feldwebel, c'est pas un fonctionnaire mais c'est un représentant de l'autorité. Ce Feldwebel me demande mon identité, religion, et je lui dis « libre penseur d'ascendance juive ». Il me répond « je n'écrirai pas cela ». Je lui dis « pourquoi ?». Il me dit « je sais ce que je sais ». ».« Qu'est-ce que vous savez ?». ».« Je suis allemand de Pologne et j'ai vu ce que j'ai vu ». Un mois plus tard, dans le camp donc Oflag 2D de Poméranie, les Allemands font circuler par l'intermédiaire de l'officier le plus élevé, colonel, la demande des états numériques des officiers de race ou de religion juive. Je demande à mon capitaine de m'accompagner chez le colonel, à qui j'explique que l'état numérique, c'est une chose, que 8 jours plus tard, l'état deviendra nominatif, après quoi on ne sait pas ce qui se passera. Et il me dit, mais c'est la main sur le cœur, jamais je ne laisserai faire de distinction entre mes officiers. Je lui dis, mon colonel, et si on vous demande la liste nominative ? La main sur le cœur, il me dit, mais naturellement, je la transmettrai. Dans ce temps, l'escroquerie pétainiste. Il est certain que rien ne laissait prévoir, lorsque l'armistice avait signé, que cet armistice annonçait un changement de régime et l'établissement d'un État dictatorial. L'armistice a été accepté par une grande majorité des Français qui n'imaginait pas, n'avait pas d'autre schéma mental que pour en finir avec l'effusion de sang et l'occupation totale du pays, qu'un armistice sur le modèle de 1918, l'idée de continuer la guerre auprès des Anglais était quelque chose à quoi l'opinion n'avait pas été préparée et que très peu de gens se représentaient. Donc l'acceptation de l'armistice était quelque chose de normal et à partir de cela, il y a eu un entraînement d'autant plus aisé que l'illusion du maréchal Pétain, le prestige du maréchal Pétain était quelque chose qu'on ne peut pas se représenter. Et mon père, qui est mort en 39-40, m'avait toujours dit dans mon enfance, des six généraux de la Première Guerre mondiale, le seul républicain, c'est Pétain.
C'est ce que Blum disait.
Oui. Pétain avait cultivé cette image. Et prisonnier, donc, en Allemagne, nous étions convaincus que Pétain était, serait le premier résistant de France. Cette illusion était si, si ancrée que sans doute la majorité des officiers de l'époque étaient de droite, et contrairement à ce qui s'est passé en 1914. Mais indépendamment de cela, le maréchal Pétain donc apparaissait comme devant résister. Pour ma part, j'étais, comment dire, prototype de Pétainaux résistant. Je m'évade dans l'Union soviétique après des péripéties multiples. Les Français évadés sont regroupés dans un camp à 120 km au sud de Moscou, le plus remarquable de l'équipe, et d'un certain capitaine Billotte, officier d'état-major, légion d'honneur sur le champ de bataille, fils d'un grand général lui-même, qui a été à l'état-major, au grand état-major. En avril ou mai 1941, Billotte, futur chef d'état-major, chef d'état-major particulier du général de Gaulle, futur ministre de la guerre, futur gaulliste de gauche, à l'époque très révolution nationale, mais ne doutant pas que Pétain est le premier résistant de France, écrit à Molotov en lui disant qu'il demande soit à être rapatrié en France pour résister aux côtés du maréchal et de l'amiral Darlan, soit pour rejoindre le général de Gaulle. J'ajoute que pour un certain nombre de ceux qui s'étaient trouvés engagés, fonctionnaires ayant accepté dans les débuts, la notion du moindre mal a été une notion affreusement pernicieuse, car elle a entraîné aux pires excès à accepter l'inacceptable. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est l'évolution des attitudes de 40 à 44. Nous avons un rapport qui a été adressé au maréchal Pétain, 5 exemplaires, Laval et Pétain, en mai 1944, sur l'état de l'opinion française, basé sur 320 000 lettres interceptées, autant de communications téléphoniques et les rapports des préfets, et qui avertit le maréchal et le président Laval, comme on disait, que l'opinion française est massivement anti-allemande, massivement anti-collaborationniste, en bonne partie maréchaliste néanmoins. C'est-à-dire que cette dualité mentale subsistait à l'époque. Et à partir de cette époque, on voit également alors les actes individuels des fonctionnaires se diversifier, non seulement des solidarités de groupes ou de réseaux permettant de protéger tel ou tel de la confrérie, mais on voit par exemple les maires des communes rurales après Stalingrad, après la capitulation de 150 000 Allemands en Tunisie, après le STO surtout, on voit les maires des communes continuer à exercer leurs fonctions et s'efforcer de soustraire des jeunes au STO. Et commencer à faire de faux papiers, à distribuer de faux papiers, et puis à démissionner. Et lorsque, au début de 1944, les Allemands font pour la première fois une offensive contre les maquis dans l'Ain et fusillent trois maires, il y a une épidémie de démission de maires qui ne veulent plus accepter leurs fonctions. De cette évolution de 43-44, où donc des actes individuels résistants sont faits par des fonctionnaires qui sont en même temps des gardiens de l'ordre, un cas symbolique est par exemple celui de ce qu'on appelait à l'époque la garde mobile. Un maquis s'enferme sur le plateau des Glières, au-dessus d'Annecy. Il est cerné par les forces de Vichy. Une grande offensive policière est montée. Et une partie du plateau, les accès à une partie du plateau sont confiés à un régiment de ce qu'on appelait donc la garde mobile. Pendant un mois, les officiers de la garde savent que les chefs des maquisards sont des officiers de chasseurs alpins. C'est la première fois que la chose est connue. Pendant six semaines, ils laissent passer le ravitaillement, ils laissent passer les traîneaux qui vont ravitailler les maquisards des Glières. Le fait devient si patent que le régiment de la garde est renvoyé dans d'autres lieux et remplacé par les CRS, qu'on appelle aujourd'hui les CRS et la milice. Un cas tout à fait extraordinaire est celui de Jean Jardin, dont le nom a été évoqué tout à l'heure, et dont le petit-fils a publié un livre il y a peu d'années qui a fait un très curieux scandale. Car Jean Jardin a eu une très belle carrière après la guerre et ami de ministres, conseiller de hautes autorités. Jean Jardin avait été le directeur du cabinet de Laval. Il a publié, ou son fils a publié un livre montrant à quel point il avait été pur de tout. Il avait protégé, abrité chez lui Robert Aron, Vichy, le côté résistant de Jardin était évident. Le petit-fils donc publie un livre d'humiliation, enfin de... Le fait que son grand-père ait été le directeur du cabinet de Jardin est pour lui quelque chose de qui le torture. Et il reçoit, c'est tout à fait curieux parce que c'est typique tout de même d'un certain état d'esprit de l'opinion. Il reçoit de multiples griefs, de multiples lettres, et coups de téléphone lui reprochant de salir son grand-père. Ceci donc il y a 2-3 ans. Or, quand on regarde les choses de près, et j'en ai discuté avec lui, il avait dîné avec Auberg, c'est-à-dire représentant des SS pour la France, et discuté en particulier avec lui de la déportation et de la livraison aux Allemands des Juifs de France de la RAF du Veldiv. Mais Jardin, en temps utile, s'est fait nommer en ambassadeur ou je ne sais plus à quelle fonction en Suisse, où il a rendu des services à la délégation de la France libre à Genève, de sorte que Soutou, dans ses mémoires, fait valoir que Jardin est parfait. Le dernier point dont je voudrais parler, c'est Tissier. Tissier, donc, sa carrière avant 1940 a été évoquée. Le ralliement de Tissier s'explique pour des raisons de patriotisme évidentes, d'une part, et d'autre part par le fait qu'il appartenait Merci. Qu'il appartenait au corps militaire qui était en Norvège, qui n'a pas compris, dont les troupes n'ont pas compris la défaite de la France. Ils étaient au loin, ils ont eu l'impression, ils n'ont pas compris. Et le refus de l'armistice s'explique en partie pour cette raison. Donc Tissier rejoint le général de Gaulle immédiatement, comme il a été dit. De Gaulle nomme, il est le plus ancien officier rallien à ce moment-là. De Gaulle nomme commandant et chef de son état-major. Et il se trouve dans le petit bureau St. Stephen's House où De Gaulle établit son premier quartier général. Trois jours plus tard, vient se présenter au quartier général en question un Français non négligeable du nom de Georges Boris. Georges Boris a été directeur du cabinet de Léon Blum en 1938, directeur d'un journal qui s'appelait La Lumière, d'un hebdomadaire qui s'appelait La Lumière, très anti-munichois. Et Georges Boris, dès le 19 juin, dès le lendemain de l'appel, est venu se présenter chez le général de Gaulle, a fait le planton, a été accueilli par le général de Gaulle, a fait le planton dans l'appartement du général de Gaulle pendant que celui-ci allait vaquer, etc. Et de Gaulle lui a demandé d'aller faire des conférences dans les camps de soldats. Donc il revient autour du 1er juillet, il est accueilli par... Il tombe sur Tissier, chef d'état-major. Et Tissier le flanque à la porte en lui disant « La France libre n'a rien à faire d'anciens du Front populaire ni de juifs ». La relation Cassin-Tissier n'a jamais été une bonne relation. Ils ont été tous les deux les légistes du général de Gaulle, mais aucune amitié ne les a jamais liés, au contraire, une certaine concurrence. Et là, on voit je veux souligner les contradictions du personnage Tissier qui sont très, très étonnantes. Les statuts, si l'on peut dire, de la première France libre ont été rédigés par Cassin en liaison avec les Anglais sous le contrôle direct du général de Gaulle, en août 1940. Et puis, en septembre 1940, de Gaulle et les Anglais tentent l'expédition de Dakar. Tissier, chef d'état-major, accompagne de Gaulle. C'est un échec. Puis l'Afrique équatoriale s'est ralliée. Et en octobre, dans le climat qui précède Montoir, le général de Gaulle veut affirmer sa position face au gouvernement Pétain. Et il fait rédiger par Tissier une déclaration organique. Cette déclaration organique est un des textes fondamentaux de la France libre. C'est un document remarquable qui démontre, argument à l'appui, l'illégalité et l'inconstitutionnalité du gouvernement de Vichy. C'est une des bases juridiques et doctrinales de la France libre. Tissier, d'autre part, est très apprécié par le général de Gaulle, car il est meilleur rédacteur, enfin, pour dire les choses clairement, il a un entraînement à la rédaction des textes juridiques que n'a pas Cassin, professeur de droit civil. Et donc, de Gaulle recourt volontiers à lui, c'est-à-dire qu'il y a une certaine compétition entre... Cela dit, alors, la question antisémitisme. Il l'a manifesté lors de l'accueil de Gaulle. Il le manifeste assez clairement pour que Cassin, dans ses carnets, indique qu'il est un de ceux à la France libre qui sont partisans d'un statut des Juifs atténué. Il a un rôle très important, puisqu'il est donc, ça a été dit, le chef de l'administration, auprès de Pleven, le chef de l'administration du quartier général. Toujours en uniforme, très raide dans les contacts, bien qu'il ait pu paraître mou au premier abord. Et il a la plume facile, il écrit des articles dans les journaux de la France libre, fait des émissions de radio et publie des bouquins. Il publie un bouquin remarquable sur le procès d'Orion, car on a reçu les archives, tous les témoignages du procès d'Orion. Là. Et Philippe publie un bouquin auquel il a fait allusion tout à l'heure sur le gouvernement de Vichy. Et tout de même, il faut regarder de plus près cet ouvrage. Parce qu'effectivement, il y souligne le problème de l'assimilation des étrangers en France, assimilation. Mais il y a un paragraphe qu'il faut tout de même rappeler. Il explique que les immigrants juifs ne peuvent pas être mis sur le même plan que les immigrants slaves ou nord-africains, étant donné que les juifs n'ont pas de nation et sont une internationale particulière. Sans commentaire.
Merci beaucoup, Monsieur Crémieux-Briac. Nous avons eu, grâce à vous, en quelque sorte, une sixième intervention en cet après-midi. Alors peut-être simplement deux mots pour vous dire que nous avons posé des questions en ce début de séance. Quelques réponses ont été apportées, mais qui je trouve, sont apportées sous le règne de l'incertitude, de l'absence de logique, du mystère, hein, finalement, des choses. Et ce mystère, moi, je crois profondément que c'est effectivement la liberté que chacun exprime quand il choisit, la conscience qu'il a de certaines valeurs. Et ce que je voudrais dire peut-être en très modeste transition avec ce qui va être maintenant abordé, c'est que, bien entendu, nous ne sommes pas aujourd'hui confrontés à des choix aussi graves, mais vous le verrez, dans toute carrière, il y a des moments où l'on se pose des questions, où l'on a un choix à faire. Et moi, j'ai choisi comme ligne de conduite, tout simplement, de pouvoir toujours me regarder dans la glace sans souffrir. Donc c'est cela, ma règle de conduite ou de conscience. C'est très modeste, mais ça permet peut-être parfois de choisir entre des petits inconvénients. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je remercie infiniment les participants. Et puis tout ce public si nombreux, France-Angleterre ne nous a pas enlevé beaucoup d'auditeurs. Pour une fille du Sud-Ouest, c'est un signe. Bon.